Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport sous toutes ses formes dans le département à travers ses sportifs, ses associations, ses clubs, ses structures, ses entreprises. Si vous cherchez un sport original pour les vacances ou la rentrée, pourquoi ne pas tenter le combat médiéval? Dans cette discipline, on se bat comme les chevaliers du Moyen-Âge. La compagnie du Loup d'Argent, basée au Luard, sera notre micro pour nous en parler. Et puis nous serons ensuite avec Jean-Charles Rioton, animateur sportif de l'Anibret Tennis Intercommunal. Le 27 juin, le club organisait un événement collectif pour achever une action solidaire contre le harcèlement scolaire, un échange de 800 000 balles. On revient avec lui sur ce défi hors du commun et sur sa résolution. Et il sera accompagné d'un jeune futur éducateur sportif. Et on va commencer tout de suite avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Le vendredi 27 juin, une grande émotion. Alors non, ça du coup, c'était à la base le premier sujet, mais on va inverser l'ordre des sujets, donc on va plutôt partir sur le combat médiéval. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones ou de Highlander, vous êtes sans doute déjà rêvé en train de vous battre à l'épée, avec armure, bouclier, toute la panoplie. Eh bien, figurez-vous que c'est possible, car c'est aujourd'hui une discipline sportive, le combat médiéval donc. Et en Sarthe, on trouve notamment la compagnie du Loup d'Argent, au Luard, près de la Ferté-Bernard. Le club a récemment participé à sa première compétition, le championnat européen de soft armored. Bonjour, Dani Dromjnak.
Bonjour à tous.
Vous êtes le président de la compagnie du Loup d'Argent. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Je trouve qu'il fait un peu penser à Jon Snow dans Game of Thrones. Est-ce que c'est la référence ou pas du tout?
Alors non, c'est pas du tout la référence. En fait, c'était pour rendre hommage à un ami qui avait du coup ce nom-là en tête. Et du coup, par respect en sa mémoire, on a pris ce nom-là.
Alors, votre association propose donc des cours de combat médiéval. Il faut tout de suite préciser qu'en fait, il y a deux courants, le béhour et le moderne. Alors, est-ce que vous nous expliquer en quoi consistent ces deux courants?
Alors voilà, on est sur du combat médiéval, voilà, et du coup on a l'armored soft fighting qui est justement du coup du combat médiéval avec des armures modernes, mais avec la particularité qu'elles soient légères, et au lieu d'avoir des épées, on se retrouve avec des battes en mousse rigide et tout un tas de protections. Voilà, du coup on est vraiment dans l'aspect sport moderne qui permet à toutes et à toutes, petits et grands, de pratiquer. Et ensuite on a le béhour, du coup, qui se pratique du coup en armure médiévale, du coup voilà, avec toutes les caractéristiques que prendrait le combat en armure. Voilà, du coup, des armures en acier trempé ou en titane, avec forcément des épées, des fauchons, et voilà.
Ah d'accord, donc c'est vraiment des vraies armures, quoi.
Voilà, alors oui, pour le béhour, on est le béhour ou l'armored fighting, on est sur voilà, des armures en acier trempé pour des questions de sécurité, avec des répliques d'épées, d'armes, de fauchons et de boucliers, qui sont bien sûr émoussées pour éviter le côté létal d'une arme. Voilà.
Est-ce qu'il y a une dimension de reconstitution historique sur toutes ces armures, ces armes? Est-ce que c'est l'objectif un peu aussi?
Alors, tout à fait. Alors, le sport prend ses bases justement chez les combattants qui faisaient de la reconstitution, du coup, à l'époque. Du coup, oui, il y a une ligne directrice qui se veut être historique. Et on ne peut pas arriver avec des casques du Seigneur des Anneaux, comme vous l'avez cité, parce que pour des questions de sécurité. Par contre, voilà, on est sur des armures entre le 13e et 15e siècle. Du coup, voilà, on est sur le bon stéréotype de l'armure, de la boîte de conserve, mais voilà, pour la pratique du sport maintenant.
Mais ça représente quel poids sur le dos quand on se bat alors?
Alors, on a les armures en acier trempé qui peuvent, peser entre 25 et ça peut monter jusqu'à 40 kilos selon les armures et selon les modèles. Et ensuite, on a des armures en titane. Du coup, là, on passe sur du entre 18 et moins de 25 kilos. Voilà, du coup, pour la pratique un peu plus sportive, un peu plus explosive.
Mais du coup, ça doit être extrêmement physique. On doit s'essouffler vite, j'imagine. Ça peut durer longtemps, un combat?
Alors, on est sur des combats en général, qu'il s'agisse de soft ou d'armure. On est sur des combats en général qui partiront sur 1 minute à 1 minute 30. Voilà. Et ça, c'est un round. Et souvent, les combats se passent en 2 rounds gagnants. Donc, forcément, les deux combattants ont un round chacun, ils devront effectuer un 3e round, voire un 4e, voire un 5e pour se départager.
Ah oui.
Et
okay.
Là, oui, forcément.
Ça peut durer longtemps, du coup, effectivement.
Ça peut durer longtemps. Moi, il me semble que je suis monté jusqu'à 8 rounds. En épée longue, voilà, pendant un tournoi, et donc ça a été très très long.
Ouais, donc il faut deux rounds gagnants, donc, voilà. Alors, donc en fait ça peut durer éternellement.
Alors il fallait deux rounds gagnants, et en plus à l'époque il y avait une réglementation qui disait qu'il fallait un certain nombre de points pour gagner le round. Voilà, il fallait,
oui,
par exemple,
parce que
avoir,
justement, comment est-ce qu'on remporte un round?
Alors en 1v1, du coup, comme à la boxe, on va effectuer du coup des frappes ou aussi des touches sur son adversaire, et en fonction de là où on va taper, ça va nous rapporter des points. Donc tout comme à la boxe, il y a des compteurs, et du coup ces compteurs vont justement se dispatcher les deux combattants, et ensuite on va faire le cumul des points pour savoir qui a eu comment dire, l'avantage sur son adversaire.
Et ça peut être des combats par équipe, comme pour faire des reconstitutions de bataille en quelque sorte.
Alors tout à fait. Pendant certains événements, on peut monter, Alors on a ce qu'on appelle la mêlée. Du coup, là, on quitte le 1v1, le combat individuel traditionnel, et on passe sur ce qu'on appelle la mêlée. Donc ça commence en 3 contre 3. Le format le plus général est le 5 contre 5. Et ensuite, on passera pour des formats extrêmement exceptionnels, comme au championnat du monde, sur du 150 contre 150, où là, vous imaginez bien que compter les points va être très compliqué pour les compteurs, donc on sera plus sur le fait d'amener son adversaire au sol. Mmh. Voilà.
Et alors, pour ce qui est des armes, donc vous nous avez expliqué que c'est de l'assiette rampée, c'est ça, donc
oui, tout à fait.
Donc elles ne sont pas particulièrement tranchantes. Par contre, on imagine qu'elles ont quand même un certain poids, il peut y avoir des blessés parfois.
Alors, tout à fait, il y a une réglementation, et puis les armes sont quand même basées sur des éléments historiques. Donc on est par exemple sur des fauchons qui peuvent peser jusqu'à plus de 2 kg. 2 kg d'acier trempé, du coup bien réparti. Et forcément, vous imaginez que quand ça tape dans le casque ou dans une partie de l'armure, même si l'armure est là pour nous protéger, il y a quand même un choc. Mmh. Donc on est sur un sport de combat extrême, mais avec la sécurité qui va bien.
Ok. Et il y a plusieurs types d'armes d'ailleurs, parce qu'on parle des fauchons. Les fauchons, c'est quoi? C'est des sortes d'épées en fait, c'est ça?
Alors, tout à fait. Alors, dans l'idée du fauchon, il faut imaginer une machette, une machette sous stéroïdes, du coup, vachement plus impressionnant. Et ensuite, on retrouvera aussi les traditionnelles épées à une main, épées longues. Et les armes d'ast. Alors, les armes d'ast, c'est tout ce qui va toucher, on va dire, aux haches à deux mains, aux vouges. Et aux albardes.
Voilà. Et comment est-ce qu'on s'entraîne? Qu'est-ce que vous développez? Quelles compétences pendant les entraînements? Parce que, qu'est-ce que ça implique en fait de se battre comme ça en armure? À quoi est-ce qu'il faut faire attention?
Alors du coup, justement, c'est pour ça qu'on pratique le modern sword fighting, le soft armored fighting. C'est justement, du coup, il y a tout un aspect technique pour pas se blesser et pas blesser son adversaire, voilà. Et du coup, on va développer tout un aspect technique en soft, du coup, en léger, pour un jour espérer arriver en armure, et là, du coup, bah, tout remettre en pratique.
Donc, si on résume, on s'essouffle, l'armure pèse très lourd, on voit rien avec le casque, on se prend des coups. Dit comme ça, ça vend pas du rêve. Qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans ce sport? Pourquoi vous aimez ça?
Tous ceux qui viennent pratiquer ce sport, ils ont toujours eu cette notion du coup du sport de combat un peu extrême, où on se dit « Ah, j'ai toujours voulu être chevalier ». Et justement, c'est ce qu'ils viennent chercher, et en fait, ils se rendent compte que c'est pas du tout fantasque. On est vraiment sur un sport qui va demander énormément de cardio, de technique, de force et de maîtrise de soi, notamment. Et du coup, c'est très complémentaire. J'ai beaucoup de gens qui ont fait du MMA, de la boxe thaï, du Krav Maga, et qui retrouvent dans ce sport justement quelque chose d'assez explosif, parce que au vu des éléments de sécurité qui font notre équipement, en fait, on se rend compte qu'on peut y aller à fond, et qu'on reçoit aussi les coups de notre adversaire à fond. Et ça a quelque chose de à la fois très libérateur et très satisfaisant.
Alors, votre association, elle est toute récente, elle n'a que quelques mois, mais vous avez pu participer à votre première compétition en juin. C'était au championnat européen de soft armored fighting. Du coup, là, on était sur du BO ou du moderne?
Alors justement, on était sur du soft armored fighting, du coup, avec l'équipement léger. Okay. Voilà. Première compétition européenne pour la compagnie du Loup d'Argent, qui avait pu aussi s'exercer sur quelques tournois où, au bout de 4 mois, parce que l'association a été créée en septembre, au bout de 4 mois, les loulous, comme j'aime à les appeler, avaient déjà fait pas mal de médailles. Et là, du coup, ils n'ont même pas un an de formation. Ils ont justement attaqué les championnats européens, et on est reparti avec un champion d'Europe, 2 vice-champions d'Europe, 2 troisième places. Et on n'avait pas à rougir du résultat, parce que c'était juste exceptionnel. On est tombé face à des très grands combattants polonais, finlandais, chypriotes, et aussi tout ce que donne de bon la France en termes de combattants. Voilà. Du coup, le niveau était élevé, mais on a su aussi imposer notre style, comme on aime à le dire, et ça s'est très bien passé.
Alors effectivement, 3 médailles d'or, 2 d'argent, 2 de bronze, ça veut dire qu'il y avait de nombreuses disciplines auxquelles concourir pendant cette compétition. C'est l'affaire de catégorie, comment ça?
Tout à fait. Alors les combattants ont pu s'exercer, ils avaient le choix entre 2 disciplines.
D'accord.
Alors il y avait donc ils faisaient leur choix parmi 4 ou 5 disciplines, si je dis pas de bêtises. Il y avait donc l'épée longue, l'épée bouclier, l'épée bocle et le sabre bocle, si je vous dis pas de bêtises. Et il y avait aussi des exhibitions de pro fight léger. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur du MMA, mais avec l'équipement.
Voilà. Okay.
Du coup, là, le combat continue au sol, il y a de la mise au sol. Et là, du coup, on continue le combat. Et c'est la forme la plus extrême, la discipline la plus extrême qu'on a proposée dans notre sport.
Et pourquoi la plus extrême?
Alors, parce que justement, dans les autres disciplines, on ne cherche pas à mettre son adversaire au sol. Justement, on cherche à mettre des points avec son arme, du coup, comme dans un combat de boxe. Sauf que la proximité va souvent être séparée. Voilà, on va éviter d'emmener son adversaire au sol parce que dans les règles, on n'en a pas le droit. Là, pour le pro fight léger, on va avoir cette autorisation du coup de pouvoir mettre des percussions de bouclier, on va pouvoir frapper avec tous les membres de son corps, on va pouvoir attraper la tête de son adversaire, la baisser, lui caler un énorme coup de genou, on va pouvoir l'amener au sol.
Oui, c'est un peu violent. Là,
voilà, là on est sur voilà, la forme la plus violente qu'on ait, mais qui est praticable du coup à partir de 18 ans.
Ok.
Et voilà.
Et vous cherchez de nouvelles recrues d'ailleurs, et est-ce que la discipline est ouverte aux filles notamment?
Alors tout à fait, justement, on a parlé des vice-champions d'Europe qu'on a au sein du club. On a notamment Célène qui a 15 ans, voilà, 15 ans, qui est une féminine qui se bat autant avec les femmes qu'avec les hommes, parce qu'il y a des catégories qui peuvent se retrouver mixtes justement.
D'accord.
Et justement, elle arrive à imposer son style, justement, un style très aérien, très dynamique. Et elle arrive à gagner de nombreux combats et elle se fait reconnaître comme ça.
Et alors, où vous contactez si on veut s'inscrire?
Alors,
je pose une colle là.
Non, il n'y a pas de souci, justement, on est sur la com de la compagnie du Loup d'Argent en ce moment. Alors, on n'a pas encore d'Instagram parce que justement, tout est encore en construction. On a moins d'un an de création. Alors si on le plus simple pour nous contacter, c'est directement par Instagram, sur mon Instagram personnel, donc Danny Dromjak, DannyDromjak, et normalement vous allez tomber du coup sur mon Instagram. Et voilà, du coup c'est déjà une première prise. Si vous voulez aussi contacter sur Facebook, comme ça je pourrais vous donner toutes les informations. Maintenant, si vous voulez plus d'informations sur le sport, vous les trouverez directement sur les sites de la fédération de SAFE, donc Fédération Française de Soft Armored Fighting. Et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut.
Je vous remercie, Danny Dromjak. Donc, c'est DROBNJAK, c'est bien
tout,
ça?
Tout à fait. Okay. Et Danny, DANY.
Exactement. Président donc, de la compagnie de combat médiéval du Loup d'Argent, basée à Le Havre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au
revoir. Radio Alpa, l'alternative.
Le vendredi 27 juin, une grande émotion a envahi le club de l'Anibré Tennis. C'était la clôture d'une action de plusieurs mois. Ensemble, soyons solidaires contre le harcèlement scolaire. 800 000 échanges de balles, 800 000 comme le nombre d'enfants victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. Et lors de la journée du 27 juin, l'Anibré Tennis a donc organisé un événement collectif pendant lequel deux championnes invitées ont échangé les toutes dernières balles. La journée s'est conclue par l'envol d'une balle géante décorée par les enfants qui ont participé à ces mois de sensibilisation. Pour faire le bilan de cette aventure ambitieuse et solidaire, nous sommes avec l'organisateur de cette action, Jean-Charles Rioton. Bonjour. Ah oui, il faut que j'en monte vos micros, c'est mieux comme ça. Vous êtes donc animateur sportif chez Anibré Tennis Intercommunal, animateur sportif de l'année 2024 selon le journal L'Équipe, et vous êtes accompagné d'un jeune qui entre en formation à partir de l'année prochaine pour devenir éducateur sportif. Bonjour Mathias Pasquier.
Bonjour.
Alors Jean-Charles Rioton, d'abord, on vous avait déjà reçu début février dans Sport en Sarthe. Seulement 5000 échanges avaient pu être effectués jusqu'alors. Que de chemin parcouru Jean-Charles Rioton jusqu'aux 800 000. Ce chiffre impressionnant, il est là pour témoigner de la gravité de la situation concernant le harcèlement scolaire.
Oui, c'est vrai que c'est une grande tournée en fait qu'on a réalisée depuis maintenant 4 mois. On a vu plus de 3500 enfants et c'est vrai, on s'était vu il y a quelques mois, on était à 5000 échanges réalisés. Et c'est vrai qu'on a enchaîné les établissements scolaires, les écoles primaires, les collèges. Et durant chaque étape, on a eu des enfants qui se sont confiés véritablement sur une première partie au sein des classes qui était plutôt théorique. Et dans un second temps, on mettait en place un grand défi solidaire avec objectif de réaliser ces 800 000 échanges de balles en soutien aux 800 000 enfants victimes de harcèlement scolaire. Donc en moyenne, dans les écoles, on faisait entre 5000 et 25000, 30000 échanges de balles. Et c'est vrai que tout ça cumulé, ça nous a fait quand même beaucoup d'étapes. Et avec Mathias qui est avec moi aujourd'hui, on a... Et Kylian aussi, Binet, un petit jeune qui était avec nous sur ce projet. On a enchaîné depuis 3 mois et demi et on a clôturé ce projet le 27 juin dernier.
Oui, Mathias Pasquier, vous avez pu participer à la création de ce projet ?
Ouais, en tant que service civique, je suis là depuis début octobre. Et l'idée, c'était d'accompagner dans la logistique, apporter des idées et vraiment être là auprès des enfants pour traiter ce sujet.
Et alors pourquoi mener une action contre le harcèlement scolaire par le biais du sport, des échanges de balles ? Pourquoi avoir mené ce projet-là comme ça ?
Déjà parce que le sport a énormément de valeur, ça peut véritablement permettre à un enfant de reprendre confiance en lui. Ça c'est une première chose qui est importante. Si on prend un exemple d'un enfant en classe qui peut être victimisé par son apparence physique, par ses notes, par ses tenues vestimentaires, il peut se révéler, changer littéralement le regard des autres en réussissant une activité physique et sportive. Donc rien que par rapport à ça, le sport, on sait très bien que ça a des valeurs qui sont incroyables et justement permettre à un jeune de reprendre confiance en lui, voir un peu son évolution au fur et à mesure des séances, c'est quelque chose qui peut être très très important et même fondamental même pour lui.
Et donc vous êtes rendu dans les écoles et collèges du territoire pour faire participer enfants et ados et donc les sensibiliser à la question du harcèlement. Quel retour est-ce que vous avez eu de leur part ? Est-ce qu'ils se sont sentis impliqués et concernés ?
On a eu énormément d'enfants qui se sont confiés sur leur parcours personnel et ça avec Mathias on s'en doutait pas forcément au départ quand on a lancé le projet. On a vraiment des enfants qui se sont dévoilés, qui ont raconté leur parcours personnel, ce qu'ils pouvaient ressentir justement par rapport à ce fléau-là, du harcèlement scolaire qu'ils auraient pu avoir déjà vécu. On a même des enfants qui ont été déscolarisés pour certains et d'autres qui ont été obligés de changer d'école. Et ils se sont confiés véritablement sur ce parcours. Et nous, c'est vrai qu'on avait véritablement les larmes aux yeux à chaque fois qu'on avait des enfants qui se confiaient par rapport à ce projet-là. Et tu peux en témoigner, Mathias, c'est vrai qu'après ces enfants-là, on les voyait sur la partie pratique et ils se révélaient totalement, quoi.
Mmh. Et Mathias Pasquier, d'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle vous attendiez en tant que service civique, éducateur sportif, d'avoir ces témoignages-là. C'est pas forcément les missions les plus évidentes par rapport à ce métier-là ?
Pas vraiment, à vrai dire, parce que on se dit on va avoir des enfants qui sont vraiment pas très âgés. On parle de l'école élémentaire et vraiment ils arrivent à exprimer ces choses-là d'une manière très simple. C'est stupéfiant. Et après dans cette partie un petit peu où on fait les échanges, on arrive à retrouver des sourires. Et ça c'est vraiment réconfortant.
Et ça vous conforte dans l'idée de devenir éducateur sportif du coup ?
Bien sûr, on se dit que tout ça ça a un sens et que on vient donner aux enfants une forme de joie un petit peu.
Alors pour la journée du 27 juin donc, qui devait achever le compte des 800 000 balles, vous n'étiez alors qu'à 775 000 au début de cette journée. Ça veut dire que vous avez tous ensemble échangé 25 000 balles dans la journée. Comment est-ce que vous avez réussi cet exploit ? Surtout qu'il a fait chaud le 27 juin, si on se souvient bien.
Déjà, on avait convié les différents enfants qu'on avait vus dans les établissements scolaires. Ils pouvaient venir participer à cette journée. Donc, on a beaucoup d'enfants qui sont venus participer à cette dernière étape. Et on a eu la chance de recevoir deux joueuses professionnelles. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Marine Parto et Chloé Noël. Donc, deux joueuses qui sont quand même connues sur le circuit féminin.
Et pourquoi elles ont tenu à répondre à cet appel-là ?
Alors, Marine était marraine déjà du projet. Et parce qu'elle est confrontée par son quotidien en tant que joueuse professionnelle par du harcèlement, du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a des parieurs en fait qui parient sur ses résultats sportifs et quand elle ne gagne pas ou alors quand ça ne va pas dans le sens du parieur, elle reçoit des menaces de mort de la part des gens qui ont perdu de l'argent. Et donc c'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur parce que ça la sensibilise. Et Chloé Noël, c'est notre représentante sartoise au niveau du tennis qui est partie aux États-Unis il y a quelques mois et qui était déjà venue participer à des projets au sein de l'association. Et c'est vrai que recevoir ces deux chorégraphies-là permettent justement aux enfants de, bah, d'échanger les dernières balles avec elles. Ça a été un moment pour eux qui restera gravé, je pense, à jamais, parce qu'on avait vraiment ciblé cette journée-là comme une journée basée sur l'émotion. Donc on a, les enfants ont fait des échanges, il y avait 4 groupes qui étaient répartis pour cumuler les derniers échanges de balles. Et l'envol de la balle solidaire aux alentours de 19h30-20h, on avait deux filles du Touring Club BC1 qui étaient présentes aussi pour faire un mini show sur, deux morceaux, le morceau de Maël, l'effet de masse, et il faudra leur dire...
Qui sont dans la thématique du coup.
Voilà, qui est dans la thématique du harcèlement, et il faudra leur dire de Cabrel. On avait deux filles qui ont joué du violon, violoncelle, donc l'émotion était réunie jusqu'à ce moment final de l'envol de la balle solidaire, et on est vraiment heureux d'avoir créé
effectivement,
ça.
Alors on va revenir sur cette balle solidaire, mais déjà on peut noter effectivement un concert de violon et de violoncelle, une performance de twirling, des championnes de tennis et des artistes. Vous avez vraiment voulu préparer un événement qui dépasse le simple cadre d'un club de tennis sartois, en fait.
Oui, parce que le harcèlement touche pas que que le tennis, ça touche tout le monde. Je pense qu'on est, on est tous plus ou moins confrontés à cette, à ce fléau-là. Et du coup, je pense qu'il était important de sortir de sa zone de confort par rapport à des sujets majeurs de la société. On est éducateur sportif, mais on est aussi, j'ai envie de dire, en mission par rapport à nos actions. Et on peut avoir un impact aussi sur les enfants et sur ce qui peut se passer au niveau de la société. Donc si les clubs sportifs jouent le jeu et mettent en place des activités comme ça en coopération, plutôt qu'on est plus dans une société où maintenant tout le monde se divise, est un peu égocentrique, un peu individualiste, et si on peut réussir à faire des choses ensemble, eh ben il faut essayer de créer une belle fête pour matérialiser tout ça, et c'est ce qui s'est passé le 27 juin.
Oui, et vous avez laissé aussi un objet qui témoigne de ce parcours accompli, cette balle de tennis géante qui s'est envolée dans les airs à la fin de la journée. Qu'est-ce que c'est que cette balle, en fait ?
En fait, cette balle, Mathias, tu peux éventuellement en parler, mais cette balle, c'est le lien entre l'ensemble des enfants et l'ensemble des établissements scolaires.
C'était un petit peu le symbole du harcèlement qu'on voulait faire passer d'école en école, en fait. Et l'idée, c'est que à chaque passage, en fin de passage, on prenait cette balle et on disait bien aux enfants que voilà, il y aurait un événement à la fin et que ça serait vraiment ce symbole-là qui les réunirait. L'idée, c'est qu'on leur a tous demandé sur chaque passage de nous créer un logo qui, pour eux, symbolisait le harcèlement, qu'on allait coller sur la balle. Et voilà, l'idée, c'est que le harcèlement était raccroché à cette balle-là et que sur cet événement-là, il allait s'envoler dans les airs.
Et donc tous les enfants ont participé à une œuvre commune, en quelque sorte. Et vous pensez que d'ailleurs, au final, il y a combien d'enfants qui auront participé à ce défi solidaire ? Vous avez un chiffre à peu près ?
Donc au total, c'est 3500 enfants dans les établissements scolaires, centres de loisirs, collèges, qui ont participé à ce projet-là. On ne s'est pas limité au département, on a été aussi dans des départements voisins, on a été dans le Loir-et-Cher, on a été dans le Ré-et-Loir, on a été sollicité par des centres de loisirs aussi pour intervenir. Et c'est vrai que la demande était particulièrement forte, et on avait ciblé cette date du 27 juin parce qu'on voyait qu'on se rapprochait véritablement de la date, enfin du nombre d'échanges de 800 000. Et donc voilà.
Vous parliez d'impact tout à l'heure. Vous pensez que ça a pu avoir un impact concret sur ces enfants, le message que vous avez délivré pendant cette action ?
Je pense sincèrement que les enfants ont été particulièrement interpellés par cette thématique. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que de par les moments d'échange qu'on a pu avoir au sein des classes, on a véritablement senti une volonté de prise de parole. Et c'est vrai que les enfants, nous on était là aussi pour leur apporter des solutions. Déjà la liberté de parole, parler des problèmes, parler de cette notion de respect qui est essentielle, le respect de l'autre pour justement avancer ensemble. Et c'est ce qu'on a voulu vraiment leur faire passer en message. Voilà, respecter son prochain, parce que c'est comme ça qu'on va construire des bonnes personnes.
Et alors Mathias Pasquier, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en tant qu'apprenti formateur sportif, éducateur sportif, pardon ?
Je retiens vraiment un grand mouvement de solidarité, surtout entre les enfants, sur toutes les étapes qu'on a fait, les ateliers qu'on a mis en place. On a vraiment vu les échanges qu'il y avait entre eux, les regards, les sourires, les motivations, ils pouvaient se motiver entre eux, vraiment cet esprit de solidarité.
Ça vous a donné envie de continuer à travailler avec les enfants du coup ?
Ouais, moi j'ai vraiment retrouvé dans ce projet une, une approche de travailler avec les enfants. Et c'était vraiment super, super cool.
Eh ben, un dernier mot peut-être, Jean-Charles Breton, est-ce que vous avez déjà d'autres projets solidaires en tête? Parce que vous n'en étiez pas votre premier non plus. Hein.
Non. Non, alors déjà cette balle solidaire qui s'est envolée, elle va aller certainement quelque part. Donc peut-être qu'à la rentrée en septembre 2025, on annoncera effectivement où a été cette balle géante, solidaire, parce que l'idée c'est de qu'il y ait une continuité au niveau des projets. Non, moi je tenais à remercier les petits jeunes qui m'ont accompagné sur ce projet-là, Mathias et Kylian, qui ont donné de leur temps et de leur énergie. Mathias qui rentrera en formation d'éducateur sportif en septembre prochain, et Kylian qui est un petit jeune de 16 ans qui sera en mission service civique, donc qui succédera à Mathias. Donc l'idée aussi pour nous éducateurs sportifs, c'est de transmettre notre passion du métier, et en tout cas à travers ce projet ça a été le cas, donc merci aux garçons de nous avoir suivis et accompagnés.
Je vous remercie, Jean-Charles Breton, animateur sportif de l'ANI Bray Tennis Intercommunal, ainsi que Mathias Pasquier qui entre en formation d'éducateur sportif à partir de l'année prochaine. Et encore félicitations pour cet exploit de 800 000 balles échangées avec les jeunes du territoire contre le harcèlement scolaire. Bravo à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Quant à moi, c'était ma dernière émission de la saison. Je vous remercie donc pour votre écoute, votre fidélité, votre curiosité. Merci à tous mes invités de cette riche année où j'ai pu rencontrer des artistes, des acteurs locaux, ceux qui participent au dynamisme du territoire, ainsi que nos élus, mais aussi notre monde associatif qui s'inquiète, mais qui s'entête. Merci à ceux qui continuent de nous soutenir, le département de la Sarthe, la ville du Mans et tous nos partenaires de cette année. Tous les jours à 18h, nous nous sommes donné rendez-vous pour penser, découvrir, débattre, réfléchir, rencontrer et promouvoir les actions dirigées vers l'éducation populaire, la solidarité et la culture. On se retrouve en septembre et faites que ça dure. À bientôt sur Radio Alpa.